Il est 8h.
On a vu depuis le confinement apparaître toute une série de nouveaux gourous. Parmi ces gens-là, il y a sûrement des gens très bien, mais il y a effectivement des gens plus dangereux.
La pandémie favorise les dérives sectaires. Nous vous dévoilons ce matin sur Europe 1 comment des gourous profitent de la crise sanitaire pour étendre de leur influence. C'est un motif d'espoir dans le traitement de ce virus. Les anticorps clonaux arrivent en France. Édouard Philippe sera-t-il le candidat à la prochaine présidentielle? L'ancien Premier ministre s'amuse, en tout cas volontiers, avec cette rumeur. Et puis, un tableau, ça ne se regarde pas seulement, ça peut aussi s'écouter. C'est ce que nous dira Diane Chenouda à la fin de ce journal. À 8h15, mon invité Marlène Schiappa, le rapport sur les dérives sectaires et l'effet de la crise du Covid, les quoique aussi les polémiques au sein du gouvernement, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa sur Europe 1 à 8h15. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec Rémi Bossaron. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. À mesure que le virus infiltre les foyers, des gourous infiltrent, eux, les esprits. Nous vous révélons ce matin comment la pandémie favorise le développement des mouvements sectaires. Les signalements ont augmenté de 7% en 2020 par rapport à 2019. Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
La mission de vigilance et de lutte contre ces dérives sectaires, la Miviludes, a reçu près de 3000 signalements l'an dernier et le lien avec la pandémie est évident.
Oui, l'essentiel de ces signalements, près de 40%, concerne le domaine de la santé et du bien-être. Les gourous qui sont déjà installés dans le paysage de la médecine alternative se prononcent contre le port du masque ou contre la vaccination. C'est le cas du Belge Jean-Jacques Crèvecoeur, 300 000 abonnés sur Facebook. Il utilise la pandémie pour dénoncer un complot de la 5G qui serait à l'origine de l'apparition du virus.
Et certains vont encore plus loin, Marion.
Ouais, pour certains mouvements, le Covid, c'est carrément l'apocalypse. C'est ce que m'a confié Jeanne. Elle a quitté, il y a quelques années, une association dans le viseur de la Miviludes, le réseau Femmes Internationales Femmes Brisées.
Pour eux, la fin du monde, concrète, physique, est imminente. Ils voient dans le coronavirus la confirmation physique qu'il y a un changement du cours des choses. Et évidemment que plus que jamais, on met en avant l'incapacité des gouvernements, et même plus que ça, la volonté des gouvernements de nuire à l'individu. Et donc la nécessité impérative du repli.
Et ce repli, il est facilité parce que les gens sont plus vulnérables en ce moment. Ils sont déjà isolés par la crise sanitaire.
Et ce qu'on constate également, c'est que les techniques d'approche des gourous ont évolué, Marion.
Plus de porte-à-porte, mais des lettres manuscrites directement déposées dans les boîtes aux lettres. Des stages en visioconférence, des soins à distance. Le tout, bien sûr, à des tarifs exorbitants. Jusqu'à 100 000 euros pour un coaching individualisé sur 2 ans. Le commissaire Éric Béraud, qui est le patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, a vu le nombre de ces enquêtes doubler l'an dernier.
On a vu depuis le confinement apparaître toute une série de nouveaux gourous. Ce sont des coachs de vie, des guides spirituels, des coachs de développement personnel, des naturopathes. Parmi ces gens-là, il y a sûrement des gens très bien, mais il y a effectivement des gens plus dangereux. Ce sont des enquêtes qui sont longues, compliquées à réaliser. Elles ont en moyenne, on a des enquêtes qui ont 2, 3 ans, parfois 4 ans plus, avec des dizaines, voire des centaines d'auditions, afin véritablement de prouver l'abus de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique.
Crise sanitaire, désormais les gourous thérapeutiques collaborent en ligne. C'est ce que m'a expliqué une enquêtrice de la gendarmerie. C'est le référent national en prise mentale.
Les gourous thérapeutiques, auparavant, ils étaient un peu tout seuls dans leur coin. Mais par contre, en 2020, ils se sont tous réunis. Ils se connaissent tous, ils s'envoient des patients, entre guillemets. Là, ils sont tous ensemble sur la toile. C'est-à-dire qu'ils font des webinaires, ils organisent des webinaires ensemble dans le cadre de cette pandémie pour dénoncer effectivement le port du masque, la vaccination, le confinement, pour être contre l'État, en fait.
Ce qui inquiète les autorités, ce sont les audiences toujours plus importantes de ces gourous. Par exemple, Thierry Casasnovas, il cumule 1 million de vues pour une vidéo en ligne sur les régimes alimentaires. Ce Français qui n'a aucune formation médicale incite ses adeptes à ne consommer que des aliments crus. Il est d'ailleurs actuellement visé par une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui.
Merci Marion Dubreuil pour ce dossier très complet sur le développement donc des dérives sectaires en temps de pandémie.
On les appelle les anticorps monoclonaux, deux mots auxquels il faut s'habituer car ils sont une lueur d'espoir dans la lutte contre le Covid-19.
Ces anticorps viennent de bénéficier d'une autorisation en urgence en France. Ils seront disponibles pour certains patients dans les hôpitaux. Et en fait, Anne Le Gall, on en a déjà entendu parler. Ils font partie de ces traitements expérimentaux administrés au président américain Donald Trump en novembre dernier.
Voilà, le traitement de Regeneron dont avait bénéficié l'ancien président américain devrait être autorisé dans les jours qui viennent. Et pour l'instant, c'est un traitement de la même famille, celui du laboratoire Eli Lilly, qui vient d'obtenir une autorisation temporaire d'utilisation en France. Les anticorps monoclonaux révolutionnent depuis 20 ans le traitement du cancer et de certaines maladies rares, explique Brigitte Autran, professeure d'immunologie. Et les essais cliniques montrent qu'ils peuvent aussi réduire les formes graves du Covid s'ils sont proposés très tôt, dans les 5 jours après le début des symptômes.
C'est un petit peu comme si on prenait du plasma de convalescent, mais c'est une méthode plus sophistiquée qui permet surtout de sélectionner les anticorps les plus puissants. C'est la première génération de traitement vraiment dirigé contre le virus qui est mise au point.
Mais étant donné leur coût, 1 000 à 2 000 euros la dose, ces anticorps monoclonaux ne pourront pas être proposés à tout le monde. Ils ne seront disponibles qu'à l'hôpital, pour des patients fragiles, notamment les plus de 80 ans ou des personnes sous chimiothérapie, sous dialyse ou transplantées.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Autre nouvelle encourageante apparue ces dernières heures, elle concerne cette fois la campagne vaccinale.
Le vaccin Pfizer est aussi efficace dans les conditions du monde réel que dans les essais cliniques. 94% d'efficacité contre les cas symptomatiques du Covid-19, résultat d'une vaste étude réalisée en Israël. Quant au vaccin de Johnson & Johnson, il est très efficace, y compris contre les variants brésiliens et sud-africains, annonce faite par l'Agence américaine des médicaments. Ce vaccin doit être très prochainement autorisé aux États-Unis.
Mais en attendant les résultats de cette campagne vaccinale, la situation sanitaire, elle, se dégrade en France.
31 000 nouvelles contaminations en 24 heures, du jamais vu depuis la mi-novembre. Dunkerque et Nice confinés le week-end. D'autres territoires peut-être bientôt concernés. Jean Castex doit s'exprimer ce soir. Mais à contre-courant de cette tendance, certains départements moins touchés que les autres aimeraient voir les restrictions allégées. C'est le cas notamment en Bretagne, Charles Guyard.
Qui peut le plus, peut le moins, c'est le refrain entonné par certains élus bretons ayant pris au mot la volonté exprimée mardi par Emmanuel Macron de régionaliser les mesures sanitaires. Ici, des maires proposent ainsi de reculer le couvre-feu à 20h et celui de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, va lui-même un peu plus loin.
Le mieux, c'est même de le reculer jusqu'à 21h. C'est pour permettre aux gens d'aller faire leurs courses, d'aller voir leurs parents, leurs amis. Les règles de sécurité, elles sont connues de tous. C'est dans les espaces clos, là où vous enlevez votre masque, que vous prenez des risques.
Et fort de cette conviction, le maire costard-mauricain milite aussi pour la réouverture des terrasses, des cafés et restaurants, avec un accès limité par exemple. Un projet que le professeur Pierre Tatevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, ne trouve pas si déraisonnable.
Ça me paraît pas fou de proposer ce genre d'évolution, mais pour que ce soit rassurant pour tout le monde, essayez d'encadrer ça. Et avec des gens qui sont conscients que c'est l'évolution vers une vie plus normale, mais c'est pas la vie normale tout de suite.
Et en attendant, une étape a déjà été franchie en ce sens, dans le Morbihan, où le port du masque n'est désormais plus obligatoire dans certaines zones et ce, depuis le 17 février. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et pour le moment, le gouvernement écarte cette hypothèse d'un allègement des restrictions, c'est ce qu'a déclaré hier son porte-parole, Gabriel Attal.
Chacune de ses prises de parole est scrutée et lui semble s'en amuser.
Oui, lui, c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. D'aucuns lui prêtent la stature et l'ambition d'un candidat à l'élection présidentielle, une rumeur à laquelle il arrive à répondre sans répondre, Jean-Rémy Baudot.
Oui, Édouard Philippe, maire du Havre, est devenu spécialiste des réponses de Normand. Interrogé mercredi soir dans une émission de foot sur ses ambitions présidentielles, l'ancien Premier ministre a mis de très longues secondes à répondre qu'il bottait en touche. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs, d'autant plus quand on a appris hier qu'Édouard Philippe lançait une association de soutien à son action politique au Havre. Certains, y compris dans la majorité présidentielle, y ont vu une manœuvre pour récolter des fonds pour une éventuelle candidature. Des spéculations qui font rire l'entourage d'Édouard Philippe. C'est une association locale, seulement ouverte aux élus havrais, assure l'un de ses conseillers. Ses amis ont beau mettre en avant sa loyauté, même ses plus proches s'amusent de l'émotion suscitée par ses cartes postales, ses sorties médiatiques. Dès qu'il fait quelque chose, ça prend des proportions dingues, s'amuse un collaborateur. Une de ses amies note tout de même, son sang-froid et son humilité ont marqué les Français lors du Covid. En avril, Édouard Philippe sortira un nouveau livre avec son ami Gilles Boyer. À ce moment-là seulement, il parlera politique, promet l'un de ses proches, comme s'il avait un jour arrêté de parler politique.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Dans un tout petit instant sur Europe 1, nous vous parlons de ces commerçants qui ont basculé dans la numérisation pour survivre à la crise, bien sûr. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal. Rémi Bossaron.
La numérisation des commerces, c'est la révolution en cours à laquelle s'intéresse Europe 1 aujourd'hui entre 13h et 14h. Tout à l'heure, La France bouge, émission spéciale avec Alain Griset, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises. La numérisation, c'est un passage obligé pour beaucoup de commerçants ces derniers mois, face au confinement notamment, et certains y ont même trouvé leur épanouissement, comme cette commerçante parisienne rencontrée par Élise Dangean.
Hello.
Coucou Christine, comment ça va?
Le téléphone de Yaël est devenu un outil de vente à part entière.
La chemise, je vous mets une small, parce qu'elle taille très grande. Je suis sûre que ça ira.
Sûr, hein.
Certaine.
C'est vrai que je suis plus large dans le monde.
Je sais.
Depuis le premier confinement, la patronne de cette petite boutique familiale développe à fond son compte Instagram. Elle y poste des photos des vêtements qu'elle vend et ça fonctionne. En à peine un an, son nombre d'abonnés a plus que triplé.
Cette cliente-là, elle est tombée sur mon Instagram. Puis on a fait une première commande. Puis là, elle appelle une fois par semaine. Ça, c'est une cliente que j'aurais peut-être jamais rencontrée en dehors de ce Covid.
Un changement de cap qui a demandé quelques efforts à Yaël, mais qu'elle ne regrette pas du tout.
Alors moi, j'ai 50 balais, j'étais une nulle totale là-dedans. Je ne savais même pas poster une photo. Donc, j'ai fait un stage intensif. Et du coup, oui, je me suis mis un peu plus en scène. J'ai fait même des posts où je portais les fringues. Enfin, on a donné de notre personne, quand même.
Aujourd'hui, impossible pour la patronne d'envisager son business autrement. Une première étape avant peut-être de lancer son propre site internet.
Le reportage à Paris, Adélise Dangean.
C'est une voix qui a résonné hier soir et qui, à sa façon, marque l'histoire de la musique classique en France.
La voix de Marie-Laure Garnier, soprano, guyanaise, révélation artistique lyrique aux victoires de la musique classique hier. Et c'est la première fois qu'une chanteuse d'outre-mer obtient ce prix. Et de la musique encore, on va en entendre. Mais au musée, cette fois, le Centre Pompidou vous propose d'écouter un tableau.
Oui, vous avez bien entendu, montez le son. Ça se passe sur une application qui s'appelle Play with Kandinsky, jouer avec Kandinsky. Diane Chenouda l'a essayé pour Europe 1.
Vous entendrez ce son de trompette si vous cliquez sur le rectangle jaune. Et ce son de violon pour le rouge. Car Kandinsky, qui peignait en musique sur Debussy ou du jazz, associait un son à chaque couleur. Pierre Caissa est responsable des partenariats pour Google Art et Culture.
Kandinsky voyait la couleur jaune comme le son d'une trompette, la couleur bleue comme le son d'un orgue, la couleur rouge comme le son d'un violon, et à chacune de ces couleurs était associée une émotion. Par exemple, le jaune a une émotion impertinente, effrontée. Pour le rouge, c'est associé à une émotion plus agitée. Le bleu, quelque chose d'un peu céleste, supernaturel. Donc c'est une entrée dans l'esprit de Kandinsky.
Pour cela, les ingénieurs ont fait appel à l'intelligence artificielle et à deux musiciens.
Eux ont réinterprété, justement, avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme, ce à quoi pourrait ressembler ce que Kandinsky entendait, mais avec des instruments d'aujourd'hui.
Vous pouvez même composer votre propre musique en cliquant sur plusieurs triangles à la fois pour créer cette symphonie, enfin plutôt cette joyeuse cacophonie.
Là, ce qui se passe, on appuie sur tous les triangles à la fois.
Oh, c'est pas une cacophonie, ça s'écoute.
Attendez.
C'est un jeu vidéo de 97.
La cacophonie peut être sportive pour Lille qui va jouer ses qualifications pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa ce soir sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. Ils avaient perdu 2-1 à l'aller les Lillois. Et puis en Ligue des Champions, on le rappelle hier, victoire de deux favoris. Le Real Madrid chez l'Atalanta Bergame 1-0 et Manchester City sur le terrain neutre en fait de Borussia Mönchengladbach 2-0 en huitièmes de finale. Allez.
Merci Rémi Bossaron, c'était le journal de 8h sur Europe 1.